Bonjour à vous tous. C'est toujours bien d'être présent à l'Église avec vous, mes frères et sœurs en Christ, de voir vos visages souriants et aussi d'entendre parfois des ronflements sporadiques. Alors, on va étudier aujourd'hui Jean, chapitre 3, versets 1 à 8. Donc, vous pouvez tourner dans la Bible vers Jean, chapitre 3. On va lire ce texte en quelques instants. Peut-être que vous avez déjà prier sans vraiment savoir quoi demander à Dieu. Vous ne savez pas quoi dire, mais le fait de le dire vous rassure. Peut-être que vous avez déjà cherché à avoir une vie plus spirituelle sans savoir exactement ce que vous cherchiez vraiment. Vous ne savez pas ce que vous recherchez, mais le fait de le rechercher vous rassure quand même. Peut-être que vous comprenez l'importance de la religion, de la prière, de la piété, de la vie éternelle, etc. Mais vous ne savez pas où commencer. Peut-être que vous arrivez au culte aujourd'hui en pensant, je sais que je suis censé être là, mais à part ça, je ne sais pas vraiment en quoi ça m'aide ou en quoi ça me fait du bien. Peut-être qu'il vous est déjà arrivé d'être au bout du rouleau en sachant que vous avez besoin d'une intervention divine dans la vie, mais vous ne savez pas comment vous approcher de Dieu dans la prière. Vous venez dans la présence, dans sa présence, tout simplement en attendant quelque chose, n'importe quoi, mais vous ne savez pas quoi exactement. Peut-être que vous pouvez vous identifier personnellement avec une de ces situations face à Dieu que je viens de mentionner. En fait, dans Jean chapitre 3, nous lisons l'histoire d'un homme qui s'appelle Nicodème et qui vient à Jésus en recherchant l'assurance et le réconfort. En arrivant, il ne pose pas de questions à Jésus. On a l'impression qu'il ne sait pas exactement pourquoi il est là. Mais il se sent que Jésus est quelqu'un qui mérite d'être recherché. Il se sent que Jésus est une personne d'importance. Nicodème vient tout simplement pour voir Jésus et pour écouter ce que Jésus a à dire. Et en voyant Nicodème, Jésus constate que ce qu'il cherche, c'est la vie. Il cherche la vie. Ce dont il a besoin, c'est un miracle, un acte humainement impossible. On va lire donc Jean chapitre 3, versets 1 à 8. Mais il y avait parmi les pharisiens un chef des Juifs nommé Nicodème. Il vint de nuit auprès de Jésus et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de la part de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit. Mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de quiconque est né de l'Esprit. Je vous invite à la prière avant d'aller plus loin. Seigneur, ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière à nos sentiers. Utilise cette lumière, la lumière de ta parole, de nous guider aujourd'hui, Seigneur. Aujourd'hui et même dans cette semaine qui est devant nous. Au nom de Jésus. Amen. Alors, pour comprendre ce qui se passe ici, il faut se mettre à la place de Nicodème. Il faut se mettre à la place de Nicodème. Nicodème est pharisien, c'est-à-dire spécialiste de la loi juive. Quand il vient à Jésus, on ne sait pas ce qu'il veut vraiment. Ce n'est pas vraiment indiqué dans le texte. C'est possible qu'il ne sache pas non plus ce qu'il veut vraiment. Mais il vient. Il vient sous couvert de la nuit, probablement pour se cacher. Il vient dans la nuit d'une manière clandestine, parce que normalement, un homme riche et puissant, qui a son doctorat en théologie de l'université des Pharisiens à Jérusalem, qui achète ses robes et ses sandales à la galerie Lafayette du centre commercial le plus chic du premier arrondissement de Jérusalem, la ville sainte. Un homme comme ça, un pharisien comme ça, ne cherche pas normalement à connaître la vie théologique d'un plouc de Galilée, n'est-ce pas? Surtout un plouc qui ose corriger les experts religieux de son époque. C'était dangereux, en fait, pour Nicodème d'être là, présent avec Jésus. Ce serait comme si l'équipe pastorale de cette église demandait aux très jeunes enfants de l'Assemblée d'écrire nos prédications pour nous. Ce serait comme si ceux qui sont diplômés en théologie, qui sont consacrés officiellement par notre union d'église, qui sont censés être des spécialistes, avaient besoin de la vie théologique d'un prédicateur de rue sorti de nulle part, vous voyez? C'est exactement la situation de Nicodème. Il démontre une grande humilité, finalement, en venant à Jésus, en écoutant celui qui n'était pas reconnu par les érudits de l'époque. Mais Nicodème ne veut pas être démasqué quand même. Et donc, il se cache sous le couvert de la nuit. Les versets 1 et 2 sont très révélateurs parce que Nicodème ne pose pas de questions à Jésus. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça dans ces deux premiers versets, mais Nicodème ne pose pas de questions à Jésus. On a presque l'impression qu'il ne sait pas trop pourquoi il est là, pourquoi il est venu. C'est comme si Nicodème s'approchait de Jésus en disant « Je sais que tu es quelqu'un d'important, je sais que tu es quelqu'un béni par Dieu ». Dis-moi donc quelque chose. Dis-moi quelque chose d'intéressant. Et qu'est-ce que dit Jésus? De toutes les choses intelligentes et profondes que Jésus pourrait dire, il dit, il faut que tu naisses une deuxième fois. Il faut naître de nouveau. Et qu'est-ce que ça veut dire? Il faut naître de nouveau. En soi, son contexte, ça n'a pas beaucoup de sens. Ça ressemble à une phrase écrite sur un poster de motivation, un peu. Imaginez si Jésus avait dit « L'inspiration est la lumière qui transforme la pluie en arc-en-ciel » ou quelque chose comme ça. C'est complètement nul, n'est-ce pas? Ou imaginez si Jésus était une sorte de gourou bouddhiste. Quel est le son du claquement d'une seule main? Ou quelque chose comme ça. Il faut naître de nouveau. Ça ne fait pas de sens, n'est-ce pas? Mais Jésus ne parle pas en énigme juste pour rigoler. Jésus fait référence à des choses qui étaient déjà révélées. On a étudié la semaine dernière Ézéchiel chapitre 37 qui parle du souffle de l'esprit qui réanime les personnes qui sont spirituellement mortes. Donc Jésus parle d'une vraie naissance, n'est-ce pas? Il demande ce qui semble impossible pour l'homme, mais qui est tout à fait possible pour Dieu. Il parle d'une transformation qui n'est possible que par un miracle divin. Jésus dit à Nicodème, ce que tu cherches est un renouveau spirituel, ce qui ne vient que par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit fait l'impossible. Il fait ce que nous ne pouvons faire nous-mêmes. Il identifie ce dont nous avons besoin et il nous donne les moyens de l'obtenir. Quand on ne sait pas trop quoi faire, quand on ne sait pas comment s'approcher de Dieu, Dieu s'approche de nous. Le miracle de la nouvelle naissance est un acte opéré en nous par l'œuvre du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est au cœur de cet acte de renouveau dans le texte. Nicodème, un homme de logique qui pense en termes physiques, ne voit pas la métaphore. Mais en fait, Jésus ne veut pas qu'il entre de nouveau dans le ventre de sa mère. Ce n'est pas ça l'idée, c'est une analogie, c'est une métaphore. Celui qui est spirituellement mort-né reçoit une deuxième chance de vivre, c'est ça l'idée. Je pense que la raison pour laquelle Nicodème ne comprend pas la métaphore, c'est parce qu'il n'est pas conscient de ses besoins spirituels, ses propres besoins spirituels. C'est pourquoi Jésus le corrige dans la suite de ce chapitre. Nicodème a pensé en termes de solutions naturelles à des problèmes spirituels. Il n'espérait pas un miracle. La vie dont il avait besoin n'était pas possible par sa seule piété. Cette vie vient par une œuvre de l'esprit. Comme un bébé ne choisit pas d'être conçu, ou comme un bébé n'a aucun contrôle sur le moment de sa naissance, ou comme sa gestation échappe de sa volonté, les croyants aussi doivent leur nouvelle naissance à Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu insuffle la nouvelle vie dans les poumons des croyants. C'est ça l'idée ici. Il prend notre cadavre qui flotte sur la mer du péché, engorgé d'eau, et il nous fait de la réanimation spirituelle. Il prend quelque chose qui est usé par les effets de la chute, usé par les effets de notre condition pécheresse, usé par les effets du passage du temps, et il le recycle, vous voyez? Comme une vieille boîte de conserve toute moche et jetée dans la benne à recyclage et qui renaît plus tard sous la forme d'une belle sculpture originale et coûteuse, Dieu fait pareil avec nous. Quand j'étais enfant, un jour ma mère a mis mon ours en peluche dans la machine à laver. Ça ne s'est pas bien passé pour cet ours. Ses entrailles ont explosé et se sont répandues un peu comme dans les films de guerre, si vous avez vu un film comme ça. Ses boyaux ont été expulsés, ses membres ont été tout mutilés. C'était une horreur. C'était bouleversant pour moi, traumatisant. En fait, c'est thérapeutique pour moi d'en parler aujourd'hui. J'étais enfant, 18 ans, quand ça s'est passé. Non, peut-être 5-6 ans, je vous assure. Mais, oui, voilà, il était complètement détruit, cet ours. Mais heureusement, ma grand-mère, qui est douée en couture, a pris la tête de l'ours et elle a fabriqué un nouveau corps pour le pauvre doudou. C'était un happy end, une nouvelle vie pour lui. J'étais très, très content. En fait, Dieu fait pareil pour nous, vous voyez? Dieu restaure, il refait, il nettoie, il purifie, il transforme. Il ressuscite des vies perdues, des vies mortes, vous voyez? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens chapitre 5. Quand on est né d'eau et d'esprit, ça veut dire qu'on est purifié, on est nettoyé, nettoyé des péchés, de toute injustice. Ce qui est important à retenir ici, c'est que Dieu donne la vie. Et le fait que Dieu donne la vie est une insulte à l'encontre de notre égoïsme. C'est une insulte pour Nicodème, qui ne comprenait pas le sens de ce que Jésus lui disait. La vie abondante et éternelle est une grâce de Dieu, reçue par le moyen de la foi. Ce don de la grâce qui vient par l'Esprit de Dieu veut dire que nous ne sommes pas les maîtres de notre vie. Et toutes nos actions morales, toutes nos tentatives de faire le bien, toutes nos bonnes œuvres, si on n'a pas la foi, ne sont que des démarches sans valeur qui conduisent quand même vers la mort. Dieu et Dieu seul peut donner la vie. Et il le fait par la mort de Jésus. Jésus qui a pris sur lui-même notre punition, la punition que nous ne méritons pas par le péché. En se présentant devant Jésus, Nicodème a reçu plus que ce qu'il attendait. Il cherchait un prophète et un sage, et il a rencontré un sauveur. Mais plus que ça, Nicodème a rencontré le Dieu souverain qui œuvre comme il veut dans le monde. Il a rencontré le vent, l'esprit qui souffle où il veut, qui choisit qui il veut, qui donne sa grâce généreusement, comme il veut. Déjà dans cette série de prédications sur le Saint-Esprit, on a vu que l'Esprit était créateur, qu'il était personnellement impliqué dans la vie des gens. On a vu qu'il réalisait activement le renouvellement et la restauration de son peuple. Et ici, on voit qu'il est le Dieu souverain qui œuvre selon sa volonté. Le verset 8 en particulier nous rappelle que ce n'est pas nous qui décidons comment l'Esprit œuvre. Il souffle où il veut. Comme le vent dans le désert qui amasse des dunes de sable à un moment et qui les détruit à un autre moment, l'Esprit de Dieu œuvre selon sa volonté. Ce point est très important. Parce que nous avons dans nos églises tendance à traiter l'Esprit comme un valet. Il y a une tendance dans certaines églises à oublier la personne du Saint-Esprit. Il y a une tendance dans certains milieux qui consiste à le voir comme un commissionnaire. De voir le Saint-Esprit comme un commissionnaire personnel qui fait ce qu'on veut, quand on veut, vous voyez. Mais l'Esprit de Dieu n'est pas contraint ou restreint par nous. Par contre, l'Esprit nous appelle à la foi en Jésus. Et l'Esprit demeure en ceux qui ont la foi en Jésus. Il joue son rôle en parfaite harmonie avec le Père et avec le Fils dans notre salut. Comme le vent, l'Esprit aussi, il souffle. Quand le vent souffle doucement en été, il nous soulage, n'est-ce pas? Il nous refroidit. Il nous fait du bien. Mais quand le vent souffle en rafale, il peut changer le paysage, il peut détruire les bâtiments, déraciner les arbres. Il peut nous bouleverser. Le Saint-Esprit fait pareil. Est-ce qu'on est prêt à recevoir toute l'action du Saint-Esprit dans notre vie? L'action qui nous bouleverse en nous montrant nos péchés ou en nous ramenant à la réalité de notre besoin de Dieu? L'Esprit nous secoue et l'Esprit nous secourt. Il fait les deux. Et si comme Nicodème, on ose s'approcher de Dieu, il faut qu'on soit prêt à accepter les deux. L'Esprit qui nous secoue et l'Esprit qui nous secourt. Encore une fois, Jean chapitre 3 raconte l'histoire d'un homme qui ose s'approcher de Jésus. Ça raconte l'histoire d'un homme qui constate que Jésus a quelque chose à lui offrir. Mais qu'est-ce que ça nous apprend finalement? En fait, ça nous apprend à ne pas avoir peur de s'approcher de Dieu même quand nous ne savons pas ce dont nous avons besoin. Ça commence par la foi et par un cœur contrit. Il faut tout simplement venir à Jésus. Ça commence là. Par exemple, si vous allez dans un restaurant étoilé, un très grand restaurant gastronomique, et que vous ne savez pas comment lire le menu ou comment choisir un bon vin, en fait, ce n'est pas très grave. C'est un restaurant étoilé, après tout. Et ce qui est important déjà, c'est le fait que vous êtes là. Rassurez-vous donc, car malgré tout, vous allez bien manger, n'est-ce pas? Vous êtes au bon endroit. Et c'est sûr que vous allez goûter des bonnes choses. Ce qui est important, c'est que vous êtes là déjà. Et de la même manière, ce qui est important dans la vie chrétienne, c'est que vous êtes là. Que vous êtes arrivé devant le trône de Dieu en répondant à sa grâce par la foi. Faites donc confiance à Dieu qui sait ce dont vous avez besoin. Soyez certain que vous allez être nourri. Vous allez être nourri par sa parole et aussi par la prière, par la communion fraternelle, par toutes ces bonnes choses. Ensuite, laissez Dieu parler. En lisant la Bible et en cherchant sa volonté, vous allez être confronté à un souffle délicat comme à des forts rafales, comme j'ai mentionné tout à l'heure. Laissez l'Esprit parler. L'Esprit nous parle à travers la Bible et on doit faire attention à ne pas nous imposer ce que nous voulons que la Bible dise au lieu d'écouter notre Seigneur. L'Esprit nous secoue et l'Esprit nous secourt. Laissez Dieu parler. Et enfin, n'empêchez pas l'Esprit de faire son œuvre en vous. Si vous êtes chrétien, l'Esprit demeure en vous. Il vous appelle à une vie de justice et d'obéissance. Soyez attentifs à ce qu'il opère en vous. Quand on accepte par la foi en Jésus que l'Esprit nous fait renaître, on doit accepter aussi qu'il va nous entraîner par son souffle vers de bonnes choses pour le royaume de Dieu, vers sa mission, vers sa volonté. Ça commence par venir au Seigneur et par rester à son écoute. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous avons besoin que tu nous fais renaître, que ton esprit souffle en nous. Accorde-nous de réveiller de notre sommeil spirituel et d'entendre ta voix, d'écouter ta voix qui nous appelle à l'obéissance. Accorde-nous d'être réceptifs à l'action de l'Esprit en nous, de recevoir toute instruction de l'Esprit en notre vie. Et surtout, donne-nous d'être réceptifs à toi quand l'Esprit nous secoue dans la vie. On a besoin de toi, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.